Chapitre 29. En effet, elle la quitta le lendemain soir, la maison de Criquefleur. C'était Sylvain qui avait choisi cette heure de nuit pour la faire partir, afin qu'elle n'eût pas à souffrir de la curiosité des voisines, et il avait voulu la conduire lui-même dans son cabriolet, ce qui avait achevé d'exaspérer Sélanie. « Tu aurais dû organiser une procession, » avait-elle dit rageusement, « avec la croix et la bannière. » « Sélanie, tu n'es pas juste. Enfin, elle va partir. » Cette pensée qu'elle allait partir avait empêché Sélanie de lutter plus longtemps contre son mari. Tel qu'elle le voyait disposé, il ne consentirait à laisser Marichette aller au Havre à Paris qu'après des querelles et des scènes qui pourraient durer longtemps. Il faudrait inventer des combinaisons, batailler. En réalité, à quoi bon se donner cette peine ? En la laissant partir tout de suite, on en était débarrassé plus tôt. Et si elle pouvait être ennuyeuse à Berneval, en tout cas, il n'y avait pas à craindre qu'elle devienne dangereuse comme héritière du corsaire. Le procès avait creusé entre eux un fossé que rien ne pouvait combler. Quand Marichette entendit qu'on amenait le cabriolet à la porte du bureau, elle descendit de sa chambre, portant dans une serviette nouée par les quatre bouts la layette que sa cousine lui avait donnée. Elle trouva dans le bureau tout le monde réuni, son cousin, sa cousine et les enfants. Elle vint à Sélanie pour l'embrasser, celle-ci lui tendit la main. « Adieu, ma cousine, » dit Marichette, « je n'oublierai jamais les bontés que vous avez eues pour moi. » « Si tu avais voulu, les choses auraient autrement tourné, mais tu as mieux aimé avoir confiance en toi qu'en moi. Grand bien te fasse !» Les enfants n'avaient pas les mêmes raisons que leur mère pour se refuser aux embrassements de Marichette. La petite Gabrielle se mit à pleurer et à crier « Je ne veux pas que Psyche s'en aille !» Probablement parce qu'elle était la dernière, sa mère montrait pour elle une faiblesse qu'elle n'avait pas pour les autres. « Laisse Psyche à Gabrielle, » dit Sélanie à Marichette. « Elle aime le chien, il lui manquerait. »« Mais c'est le chien de maman !» s'écria Marichette. « C'est bien, emmène-le. Tu l'avais donné à Monsieur Moreau, tu le refuses à cet enfant, cela montre tes sentiments de reconnaissance. »« Monte !» dit Sylvain pour couper court à ses adieux. « Pardonnez-moi, » dit Marichette à Sylvain lorsque le cabriolet roula. « J'aurais voulu faire plaisir à Gabrielle et ne pas blesser ma cousine, mais je vais être si seule. » »« La petite ne pensera plus au chien demain, toi tu y aurais pensé toujours. » Il n'y a que 4 kilomètres entre Criquefleur et Berneval, ils furent rapidement franchis malgré un violent coup de vent du nord-ouest qui soufflait en plein dans la capote du cabriolet et les ornières de la route défoncées par les pluies d'hiver qui, en ce mois de décembre, avait tombé sans discontinuer. Il faisait nuit noire, sans une étoile au ciel chargée de nuages. Mais, aux lueurs que les lanternes projetaient de chaque côté de la voiture, Marichette vit qu'ils entraient dans une rue de village. C'était Berneval, où elle n'était jamais venue. Les maisons se tassaient, puis apparaissaient quelques boutiques aux façades plus ou moins mal éclairées. Une pharmacie inondait la rue de deux rayons éblouissants, l'un vert, l'autre jaune. À côté, un magasin, plus modestement éclairé, montrait un étalage blanc. C'était là. Sur les vitres de la montre, on lisait « Julienne Lingère ». Au bruit de la voiture, Mademoiselle Julienne, qui la guettait, ouvrit la porte. « Entrons par l'allée, » dit-elle. Et, passant la première, elle conduisit Marichette et Sylvain dans la chambre de la cour où brûlait une petite lampe à pétrole. « Voici la chambre que votre cousin a arrêtée, » dit-elle à Marichette d'un ton affable. Et, se tournant vers Sylvain, « Vous voyez, monsieur Belloquet, que je n'ai pas fait de folie. » En effet, le mobilier était plus que simple, mais il avait la propreté du neuf et l'odeur du vernis des chaises se mêlait à celle de la cire vierge, du traversin et de l'oreiller. « Vous me donnerez demain un échantillon de votre savoir-faire, » dit Mademoiselle Julienne à Marichette. « Je puis vous en donner un tout de suite. Et Marichette dénoua la serviette où se trouvait sa layette, prit une petite chemise neuve qu'elle avait taillée dans un vieux morceau de toile. Vivement, la lingère la saisit, et, se campant son lorgnon sur le nez, elle l'examina sous la lumière de la lampe. « Bien, dit-elle, très bien, le point est bon, petit, régulier. Seulement, vous n'arrêtez pas avec assez de soin. Ce qu'il nous faut, c'est la solidité provinciale unie à l'élégance parisienne. » Laissant Marichette dans sa chambre, elle passa avec Sylvain dans la cuisine pour lui offrir un verre de cassis, car, ne recevant que rarement des hommes chez elle, il fallait qu'aussitôt qu'elle en avait un, elle lui fît consommer ses liqueurs. « Elle est jolie comme un amour, dit-elle. Quel malheur ! Car je considère la beauté chez une fille comme une calamité, quand ne s'y joint pas la fortune. » Avant de partir, Sylvain revint dans la chambre pour dire adieu à Marichette, et en l'embrassant, il lui glissa un louis dans la main. « C'est pour tes premiers besoins, en attendant que tu gagnes, dit-il. Je viendrai te voir souvent, aussi souvent que possible. Je te tiendrai au courant du procès. » « Je vous en prie, mon cousin, ne m'en parlez jamais !» Sylvain revint comme il l'avait promis, ne restant jamais plus de 3 ou 4 jours sans voir Marichette, et chaque fois qu'il entrait, il la trouvait installée devant sa fenêtre, travaillant avec Tite près d'elle. « C'est une perle !» disait Mademoiselle Julienne en lui versant un verre de liqueur. « Elle a une aiguille de fée. Avec cela, travailleuse, appliquée, courageuse, intelligente, douce. Elle serait parfaite si elle était laide. Un nez cassé, un œil crevé, voilà une chance pour une fille pauvre. » C'était beaucoup pour lui de la voir ainsi installée, ayant près d'elle une brave femme qu'il avait prise en amitié. Cependant, il aurait voulu que pour l'accouchement, Célanie vînt l'assister. Il eut même le courage de risquer cette demande. Mais il fut reçu de façon à ne pas la recommencer. « Ce serait vraiment la place d'une femme honnête, » dit Célanie, qui venait de charger Soupardin de glisser adroitement au corsaire, qu'elle avait mis Marichette à la porte de chez elle quand elle avait connu la vérité. Il faudrait donc que la pauvre fille accouchât toute seule, car il ne pouvait pas être près d'elle. Un matin de février, qu'il arrivait à Berneval, il vit Mademoiselle Julienne qui, du seuil de sa porte, lui télégraphiait avec ses longs bras des signaux qui paraissaient importants. Il pressa le pas. « C'est fait, » dit-elle quand il fut près d'elle. « Ça a été dur et plus d'une fois, je me suis demandé comment on pouvait s'exposer à ça volontairement. Il est vrai qu'elle ne s'y est pas exposée. Enfin, c'est un garçon. Ne dites pas à la mère que c'est une grenouille au moins. » Elle le trouve beau, c'est un monstre. Et ce n'est pas une fille. Elle voudrait que vous fissiez la déclaration à la mairie, mais elle n'osera pas vous le demander. Proposez-le-lui. Et puis, il y a quelque chose aussi qui serait une grande joie pour elle, ce serait que vous fussiez le parrain. Je le serai. Si vous voulez de moi pour votre commère, je suis prête. Ce fut en effet une douce joie pour Marichette quand Sylvain, l'embrassant, lui dit « Quel nom veux-tu que je lui donne au baptême à ce petit ?»«
Oh, mon oncle, que vous êtes bon !»«
Ne nous attendrissons pas, dis-moi le nom. »«
Pierre, comme papa. »
C'était justement parce qu'il était bon qu'il était plein d'angoisse sur l'issue du procès, se demandant souvent avec un sentiment de remords quel serait le jugement. Car c'était lui qui l'avait voulu, ce procès, lui qui l'avait engagé. N'aurait-il pas dû prévoir que son cousin inventerait quelque machination diabolique pour se défendre et sortir à son honneur de cette affaire, comme de tant d'autres ? Il fut désastreux, ce jugement, aussi bien par son dispositif que par ses considérants. Attendu que la demande introduite au nom de la fille Marie Cabernet, si elle était admise, ne tendrait à rien moins qu'à saper par la base la disposition tutélaire, aussi bien au point de vue moral qu'au point de vue social, qui prohibe la recherche de la paternité, que le caractère de quasi-délit sur lequel cette demande s'appuie pour réclamer des dommages-intérêts ne se rencontre pas dans la cause, qu'en effet, si l'on interroge l'enquête, elle n'apporte l'indication d'aucune manœuvre ou d'aucun abus d'autorité dont Marie Cabernet ait été victime de la part de son tuteur. qu'au contraire, de cette enquête et des pièces produites, les pièces produites, c'était la lettre de Victor, il résulte la preuve d'une légèreté de mœurs et d'habitude de libertinage à la charge de la fille Marie Cabernet. Par ces motifs, déclare la fille Marie Cabernet mal fondée dans sa demande, l'en déboute et la condamne aux dépens. Quand Sylvain, désespéré et honteux, rapporta ce jugement et ses considérants à Mademoiselle Julienne, n'osant pas en parler à Marichette, la vieille fille ne manifesta aucune indignation. « C'est bien fait, dit-elle, voilà une bonne leçon pour les filles. Seulement, ils sont naïfs, les juges, avec leur disposition tutélaire de la morale et de la société. Le jour où l'on pourra obliger les hommes à reconnaître les enfants qu'ils font aux filles, ils n'en feront plus. » Fin de la troisième partie.